Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous écoutez la radio Inzamba Agateka Kawe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les titres de ce lundi 7 novembre 2022. Colère des militaires de la brigade logistique. Cela fait 3 jours qu'ils déchargent des camions contenant du riz. Ils dénoncent le détournement de l'argent destiné à rémunérer les civils qui exécutaient habituellement ces tâches. Saisie de 66 kilos de coltan en commune de Kabarole de la province Kayanza, une personne poursuivie pour fraude de ces minéraux a été interpellée. Défaite de l'équipe nationale de football de moins de 20 ans. Les Hirondelles ont perdu face aux Soudanais 1-0 hier dimanche. Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 de moins de 20 ans.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Des militaires de la brigade logistique remontés contre leurs supérieurs pour cause l'obligation de décharger les camions contenant des sacs de riz. Ces militaires accusent le commandant de cette brigade d'avoir détourné l'argent payé par les fournisseurs et destiné à faire décharger ces véhicules. Plus de détails avec Georges Nimenya.
Ces militaires de la brigade logistique, ancien bataillon de base des forces armées, viennent de passer 3 jours à décharger des camions qui ont amené du riz pour approvisionner les stocks de l'armée burundaise. Ces militaires indiquent qu'ils ont été envoyés décharger ces camions alors qu'ils étaient affectés dans d'autres services. Selon ces militaires, le déchargement des camions est à la charge du fournisseur qui paie la somme de 400 000 francs burundais par camion de 10 tonnes pour cette tâche. C'est donc la grogne chez ces militaires qui affirment avoir été retirés de leur service depuis vendredi. Et l'opération de décharger s'est poursuivie jusque dans la journée de ce lundi. Ils accusent le lieutenant-colonel Leonidas Matonde, commandant de la brigade logistique, d'avoir détourné l'argent des fournisseurs destiné au déchargement de leurs camions pour faire faire ce travail par des militaires affectés à d'autres services. Pour cela, il a promis à chacun de ses militaires une boîte de conserve de corned beef. Il croit à la complicité de les commandants avec le chargé de la logistique à l'état-major appelé G4 parce qu'aucune boîte de corned beef ne sort des stocks sans son autorisation préalable. Ces militaires demandent aux commandants de les faire regagner leurs services respectifs et confie le déchargement par les main-d'œuvre payées par les fournisseurs. La rédaction de la radio Inzamba Gatera Kawe a tenté de joindre par téléphone le lieutenant-colonel Leonidas Matonde, commandant de la brigade logistique, pour qu'il puisse réagir à ces accusations des militaires sous son commandement, mais sans succès.
La police a saisi 66 kilos de minéraux de type coltan en commune Kawarole. Cela s'est passé la nuit dernière. Selon une source administrative, 2 hommes dont le propriétaire de ces minéraux ont été interceptés alors qu'ils allaient les vendre dans un pays limitrophe du Burundi. Le conducteur de la moto qui transportait le propriétaire de ces minéraux a pris le large, mais son client a été appréhendé. Il se trouve au cachot de police dans cette même commune. Signalons que dans le cas de fraude de divers produits, à savoir les minéraux, le café et les vivres, sont souvent rapportés dans cette localité. Dans un instant, la suite de ce journal.
Inzamba.
Florian Irangabiye vient de totaliser 69 jours d'incarcération. Arrêté le 30 août dernier, cette journaliste de la radio Egichaniro est poursuivie pour atteinte à l'intégrité nationale. Selon Janine Naï Gombeye, ancienne journaliste, son arrestation montre le vrai visage de la justice burundaise face à la liberté d'opinion et d'expression. On l'écoute.
J'ai appris l'emprisonnement de cette journaliste, Floriane Irangabiye. Je dirais tout simplement que c'est scandaleux, c'est inadmissible. La place de Floriane ne devrait pas être en prison. Elle devrait être dans sa famille. Elle devrait être avec ses collègues, que ce soit ceux qui sont au Burundi, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur, hein, parce que le monde suit attentivement ce qui se passe au Burundi. Le monde est intéressé par ce pays. Mais alors, au-delà de cet emprisonnement qui est évidemment très pénible pour la journaliste, il faut dire que cela montre finalement, si c'était encore nécessaire, le vrai visage du Burundi, le vrai visage du gouvernement burundi, le vrai visage de la justice au Burundi. Et je pose, moi personnellement, des questions. Est-ce que on respecte les droits des femmes? Est-ce qu'on respecte les droits de la femme? Est-ce qu'on respecte les droits des journalistes? Ce sont des questions que je me pose.
Nous sommes le 7 novembre, une journée internationale de l'écrivain africain. L'occasion pour Antoine Kavulae, écrivain, d'appeler les Burundais à écrire des livres malgré le manque de considération à l'égard des écrivains au Burundi. Il regrette par ailleurs les difficultés d'accès aux livres pour les jeunes. On l'écoute.
Le chemin est encore long pour le livre et pour l'écrivain au Burundi. Malheureusement, à ce jour, le livre reste comme un objet luxueux, un objet rare, presque inaccessible, dans certains coins du pays en tout cas. Et il n'est pas rare quand un élève termine le lycée, le collège, sans avoir lu un seul roman. Alors, est-ce que c'est la faute de l'élève ou de l'écolier? Mais c'est surtout la faute des pouvoirs publics qui n'investissent pas aussi dans la lecture, pour mettre à la disposition de la jeunesse des livres. C'est vraiment une aberration. Donc, ça veut dire qu'il y a une politique qui doit être pensée au niveau national pour démocratiser le livre. Ce n'est pas normal qu'un jeune termine l'école secondaire sans avoir lu un livre, sans avoir tenu dans ses mains une simple bande dessinée. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment que les autorités aient conscience de cette lacune grave. Parce que, comme disait quelqu'un, tout se trouve dans les livres. Le savoir s'y puise, on peut voyager, on peut s'ouvrir au monde grâce à la lecture. Il y a donc une politique qui doit être menée par les autorités.
Antoine Kavulae interpelle les parents pour qu'ils encouragent leurs enfants à avoir un engouement pour la lecture.
C'est un peu une place marginale dans la société burundaise, dans la mesure où je me souviens, par exemple, à l'université, les facultés des lettres étaient des facultés très peu prisées par la jeunesse, qui souhaitait faire ce que l'on appelait des facultés nobles, donc qui donnent droit à des postes dans les banques, dans les assurances. Et nous qui faisions la littérature, on était un peu considérés comme des étudiants de seconde zone. Moi, je peux témoigner de cela, alors que c'est parmi eux que très souvent se recrutent des auteurs. Donc c'est plus profond que ça. La place de l'écrivain burundi sera aussi considérée quand le livre aura retrouvé ou trouvé ses lettres de noblesse. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible que une ville comme Bujumbura compte, je crois, 2 ou 3 bibliothèques à peine. Si ma mémoire est bonne, il y a l'Institut français, il y a le Centre des jeunes Camerounais, peut-être 2 ou 3. Sur une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, sinon de millions, ce n'est pas normal. Les gouverneurs de province doivent créer des centres de lecture. Dans les communes, il faut qu'il y ait une bibliothèque. Et ça, c'est vraiment une initiative qui doit être parrainée, qui doit être encouragée par les plus hautes autorités du Burundi. Ensuite, les parents. Les parents ont un rôle important. Il faut apprendre à nos enfants. Je suis père, moi aussi, donc je sais que il faut qu'on vous parliez littérature. Il y a des parents aujourd'hui qui, à l'école, qui ont la chance d'être, je dirais, éclairés. Est-ce qu'ils parlent avec leurs enfants de livres? Est-ce qu'il y a des livres au Burundi? Est-ce qu'il y a un livre, au moins 1 ou 2 ou 3 dans une famille de Bujumbura?
Décrété par les Nations Unies le 7 novembre 1992, la Journée internationale de l'écrivain africain est une occasion de rappeler aux écrivains africains qu'ils sont une part importante de l'histoire de la littérature. Environnement, à présent, le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, participe depuis hier à la conférence internationale des Nations Unies sur le climat, la COP27. Ce sommet de 12 jours qui se tient en Égypte vise à étudier ensemble les voies et moyens pour faire face aux effets des changements climatiques qui menacent l'humanité. On fait le point avec Karine Doussavé.
Les dégâts causés par la sécheresse, les feux de brousse et les inondations dévastatrices constatées ici et là à travers le monde, et particulièrement en Afrique, ont motivé la tenue de ce sommet mondial sur le climat. La conférence donne entre autres pour mission de voir comment s'adapter aux effets des changements climatiques, mais aussi et surtout réduire ou supprimer les émissions des gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone. L'Organisation des Nations Unies voudrait que la COP27 en Égypte soit un lieu pour combler le déficit en termes d'ambition et de solidarité au niveau des engagements des États dans la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, la COP27 pourrait susciter des appels à prendre des mesures climatiques plus fortes, plus rapides et plus collaboratrices, et renouveler le sentiment d'urgence à limiter le réchauffement climatique à plus de 1,5 degré Celsius. Chaque pays devrait donc déterminer lui-même l'effort réaliste qu'il peut apporter. Mais une question se pose encore, c'est celle de la promesse non tenue des pays riches à financer les pays pauvres pour le climat. Cette question va encore une fois occuper les participants au sommet, un sommet qui réunit pour 12 jours plus de 110 chefs d'État et de gouvernement.
Du sport pour clore ce journal, au basketball, le tournoi financé par la banque CRDB est en cours. En même temps, le club Brunani continue ses préparatifs pour aller disputer en Afrique du Sud le ticket pour la Ligue africaine de basketball. Au football, l'équipe nationale de moins de 20 ans s'est inclinée devant le Soudan et perd du coup sa chance de participer à la CAN de moins de 20 ans qui se joue en Égypte. Les détails avec Alexandre Niyungeko.
L'équipe nationale du Burundi des moins de 20 ans ne participera pas à la CAN qui se joue en Égypte du 18 février au 12 mars 2023. Elle a été éliminée par le Soudan qui a marqué à la 12e minute et le score n'a pas bougé jusqu'à la fin du match. Et pourtant, les Burundais y avaient cru puisqu'ils sont allés sur le terrain avec la première place. Les espoirs se sont estompés avec la victoire du Sud-Soudan sur le Djibouti avec un but à zéro également. Ainsi, le Burundi termine la CECAFA 3e derrière les deux Soudans et le Djibouti ferme la marche. La participation du Burundi dans les éliminatoires de la CECAFA avait suspendu le championnat national Primus League, un championnat qui reprend le week-end prochain. Et dans la Ligue B, le championnat est dans la 5e semaine. Buhumuza FC a battu Royal FC 1-0. Même score entre Lumière Dongozi et New Force en faveur de Lumière Dongozi. Également, Garage Express a battu les Croco FC 1-0. Même Uganda City a eu raison sur Mosso Shuga par 1-0. De leur côté, les jeunes ont dominé Deira par 2-1. Et enfin, Tel Aviv FC a fait match nul avec Estubomwe par 1-0. Au basketball, pour marquer son 10e anniversaire, la CRDB Bank organise un tournoi. Samedi, Jimmy Kana a battu les Hippo par une différence d'un point, 65 à 64 points. Et vendredi, Dynamo s'est imposé sur New Star sur un score de 64 points à 61. Dans un match qui a connu plusieurs incidents et couacs entre joueurs, le match qui devait opposer Urunani à Remesha a été reporté pour ce mardi. Le staff technique d'Urunani ayant motivé ce report pour des raisons de repos des joueurs qui revenaient de la compétition à Dar es Salaam en Tanzanie. Urunani justement qui continue ses préparatifs pour Elite 16 qui se déroule en Afrique du Sud du 21 au 27 novembre. Elite 16 est une étape pour la qualification pour la Ligue africaine de basketball, la 3e de son histoire, communément appelée BAL. Et dans la droite ligne de ses préparatifs, le club Burunani vient de recruter un nouveau coach, un espagnol, Joseba Inaki Martin Garcia, un international qui a déjà à son actif une vingtaine de clubs dans les pays comme l'Espagne, le Portugal, le Venezuela et le Mozambique. Participe également à Elite 16 en Afrique du Sud, d'autres clubs comme la Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, Kenya Port Authority du Kenya, ainsi que la NBA Academy.
C'est avec l'actualité sportive que se termine ce journal. Merci de l'avoir écouté. Très bonne semaine à tous. Au revoir.